Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et bienvenue sur ce nouveau podcast de la chaîne secondaire, les podcasts de Boxe Attitude. Je vous rappelle que j'ai une chaîne principale sur laquelle je fais des vidéos face caméra, des vidéos montées, etc. Et en ce moment, j'essaie d'alterner un jour une vidéo sur la chaîne principale, un jour un podcast. Comme ces derniers temps, sur les propagandes de combat, j'aimais bien faire ce que j'appelais les propagandes avant un combat, j'ai pas été très sérieux. Alors, j'ai suivi les combats, hein, j'ai fait des vidéos avant les combats, mais c'était pas vraiment des propagandes, où vraiment on fait plusieurs vidéos, où on se monte bien. Je faisais en général la vidéo présentation du combat et un live avant combat. J'aurais aimé en faire un petit peu plus ces derniers temps parce qu'on a eu des combats très intéressants et notamment Comboso Sloma. Malheureusement, pour plusieurs raisons, cette semaine pour moi elle a été un petit peu compliquée. J'aurais aimé faire une réaction à la pesée ce matin. Je devais faire un live vendredi soir que j'ai dû annuler un petit peu à la dernière minute. Je m'en excuse encore auprès de la Justice League. Voilà, c'est comme ça. Ce qui est fait est fait. Donc je vais essayer à partir d'aujourd'hui de me rattraper pour le combat historique de l'année. Voilà, s'il y a un combat qui marquera l'histoire de la boxe, c'est celui-ci, hein. Je parle de cette année de boxe, hein. Cette année, un combat qui est marquant historiquement, c'est celui-ci. Bien sûr, on aura d'autres grands moments sportifs avec plus d'enjeux sportifs. Je pense à Beterbiev Bivol, même s'il est reporté, et d'autres. Mais il y a une petite histoire qui est derrière cet affrontement entre Fury et Usyk, derrière cet affrontement qui n'est pas forcément le plus glamour. Voilà, Fury, Usyk, les stylistes, c'est pas forcément les combattants les plus spectaculaires, les combattants qu'on a le plus de hype à regarder boxer. Ils sont tous les deux très attachants, ils ont quand même des points forts, mais c'est pas les combattants les plus hypants, c'est pas Joshua Wilder en, je sais pas, 2016, 2017. Voilà, ce combat-là, il y avait une hype de fou autour. Bah aujourd'hui, même si on a bien le numéro 1 et le numéro 2 qui vont s'affronter, même on peut dire aujourd'hui numéro 1 à égalité, on va dire numéro 2 à égalité et la place du numéro 1 se reviendra au vainqueur. Bah malgré ça, malgré qu'on a deux invaincus, etc., c'est vrai qu'il n'y a pas une hype de ouf, pour plusieurs raisons, on essaiera d'en parler plus tard. Mais une de ces raisons, c'est que Tyson Fury a été plutôt décevant sur les derniers affrontements. Je dis une de ces raisons, ne me faites pas dire que c'est la seule raison, il y en a d'autres, du côté de Usyk aussi, du côté de l'état de la boxe aussi. Attention, hein, je ne dis pas que c'est un mauvais état de la boxe, c'est au contraire, je pense que ce combat-là souffre que cette année, on va dire depuis un peu plus d'un an, il y a un nouvel essor dans la boxe et je trouve que ce combat-là, bah, il en pâtit un petit peu. Mais bref, là je voudrais m'attarder sur un point important, Tyson Fury et son conditionnement physique, son conditionnement mental pour un événement de boxe et surtout pour une défense de titre. J'ai souvent reproché à Tyson Fury de ne pas être suffisamment sérieux dans les combats en jeu, notamment les défenses de titre. J'ai toujours dit que c'était un très grand challenger, mais un champion déplorable. Je trouve qu'Anthony Joshua est un plus grand champion quand tu regardes son air, ses défenses, etc. Tyson Fury, j'ai un peu du mal avec lui en tant que champion. Je trouve qu'il salit beaucoup la ceinture qu'il porte. Peu importe la ceinture qu'il aurait, hein, si, là il a la WBC actuellement, mais s'il avait la WBA, l'IBF, WBO, peu importe. Je trouve que c'est un mec qui n'a pas ce truc du champion honorable. Et ça se voit sur les prestations qu'il a faites, et notamment cet écart qu'il a fait avec Ngannou. À ce moment-là, pour moi, ça a été un petit peu la cerise sur le gâteau. Et ce qui est problématique chez lui, c'est qu'on ne sait jamais vraiment dans quel état il va se présenter à un combat. Alors, son talent, ses capacités hors normes, qu'elles soient physiques ou pugilistiques, font qu'il surclasse. Il arrive toujours à dépasser, soit il surclasse ses adversaires, soit il les dépasse juste ce qu'il faut pour gagner. Attention, Usyk peut être celui où il faudra faire attention à ça. Bah, clairement, en fait. Non, c'est pas attention Usyk. C'est Usyk, tu peux pas te permettre d'arriver en piètre forme. Et donc la question qu'on se pose tous, je pense, c'est ben, dans quel état de forme va arriver Usyk. Et moi, ça fait partie des questionnements qui me tapent dans la tête depuis plusieurs jours. J'ai cette voix dans la tête qui me dit, mais l'état physique de Fury peut tout changer sur le pronostic que je vais avoir de ce combat-là, de comment j'imagine le combat se dérouler. En fait, je me pose 1000 questions, je vous dis la vérité, je suis dans une inconnue totale autour de ce combat-là. On me demande mon prono, on me demande ce que je pense du combat, mais en vrai, chaque jour, je me dis, ouais, mais attends, je verrais plutôt lui gagnant. Non, plutôt lui. Mais attends, mais s'il y a ça, s'il y a ce facteur-là. Mais il y a un facteur qui revient énormément et qui est peut-être pour moi le plus important, c'est ben Tyson Fury. Est-il sérieux? Est-il sérieux? A-t-il fait une vraie préparation? A-t-il encore l'envie de faire une préparation sérieuse? Et ce qui va répondre un petit peu à mes interrogations en tout cas, et puis peut-être que vous, dans les messages, vous allez m'aider, c'est les dernières photos qui sont sorties de lui. Et déjà, moi, j'avais eu un gros signal d'alarme quand il s'était présenté face à Ngannou. On y reviendra. Donc les dernières photos qu'on a vues, alors je vous en mets des différentes sur le fond là, vous m'écoutez, il y a un fond visuel, donc il y a deux photos pour ceux qui sont sur YouTube, il y a une seule photo pour ceux qui sont sur les podcasts, notamment Spotify, mais voilà, les photos de ces camps d'entraînement, et je vous ai mis une autre photo qui est sortie à peu près dans la même période, hein, on a vu ces photos sortir, donc il y a peut-être 3 jours je crois. Et l'autre photo, bah, c'est Tyson Fury lui-même qui l'a partagée sur ses réseaux, donc je voulais repartager celle-ci sur l'onglet communauté des podcasts de Box Attitude. Et elle a été relayée, bien entendu, par les promoteurs, etc. Parce que ça fait une bonne publicité pour l'événement, bien entendu. Et donc, on va essayer d'analyser un petit peu cette, cette shape, voilà, c'est la forme de Tyson Fury. Et puis, je vais lire aussi vos messages. Donc moi, ce que je vois quand je vois cette photo, alors bien entendu, il est légèrement congestionné, enfin, je pense même qu'il est bien congestionné après une séance, peut-être une séance de renforcement musculaire. Il rentre un petit peu le ventre, il bombe un petit peu le torse, donc ça aide à affiner la silhouette. Mais quand même, on peut voir déjà qu'au niveau des épaules, il y a les petites veines qui ressortent, on peut voir quand même les muscles hein, dessinés. On peut voir que les pectoraux ne sont pas tombants comme on a pu voir parfois chez lui. Et on sent quand même derrière la graisse, parce qu'il y aura toujours cette couche de graisse avec lui, une masse musculaire. On peut voir les abdos du haut quand même légèrement apparents, même si je vous dis que là, il rentre le ventre. Hein, donc c'est ce qui fait un peu cet effet un peu creusé en dessous du plexus. Il y a le bide. Hein, voilà, il a toujours un peu cette couche de graisse autour au-dessus du haut du short. Mais quand même, moi, quand je regarde les poignées d'amour, je me dis c'est pas trop mal, parce qu'on a déjà vu Tyson Fury avec des poignées d'amour complètement débordantes, donc c'est quand même pas mal cette shape qu'il nous montre, et je me dis par rapport aux les dernières sorties qu'il a pu faire, bah on voit qu'il y a eu quand même une bonne prépa. Moi là, ce que je constate, c'est une bonne préparation. Et quand on rajoute les photos qui ont été sorties par des partenaires d'entraînement sur leur réseau, donc que je vous ai mis, où on peut voir, pareil, hein, il est avec les collègues, il a l'air plutôt pas mal, toujours, moi ce que je trouve quand même impressionnant, c'est les épaules et les bras, qui sont pas mal dessinés, surtout sur la deuxième photo, là où on le voit avec le débardeur bleu, où on peut voir quand même que le bras est assez bien dessiné. Hein. Je vous rappelle que Tyson Fury n'a pas une génétique avantageuse pour mettre en valeur son corps. Par contre, il a une génétique avantageuse pour boxer. Ça, on en parlera très certainement plus tard dans les vidéos que je ferai, où j'analyserai un petit peu le combat, comment ça va se passer. Pour boxer, il a une génétique incroyable. Voilà, c'est vraiment Obélix. Il est tombé dedans petit et il a été béni par les dieux du combat. Je fais un petit peu des métaphores, j'extrapole, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, il a une intelligence du ring qui est exceptionnelle. Pendant un combat, il est en capacité d'analyser et de s'adapter à son adversaire. Donc, c'est un génie. Voilà, c'est un génie de la boxe. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Que t'aimes ou t'aimes pas ce bonhomme-là, c'est un génie de la boxe. Moi, personnellement, je l'aime pas. Je vais pas m'en cacher, je l'aime pas. Mais il a des qualités exceptionnelles en tant que boxeur. Donc, voilà un petit peu sur l'état physique de Tyson Fury. Malgré les défauts qu'il peut avoir, moi, je pense que là, il est dans une super forme. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, je vais dire un petit peu ce que vous en dites. Et on va voir si vous êtes d'accord avec ça. Donc, suite à avoir mis après cette photo, voyons un peu ce que vous me dites. Julien qui nous dit... Il prend enfin ce combat au sérieux, bon sang. Alors, est-ce que bon sang, c'est une petite ref à notre poteau Dato, qui dit souvent bon sang quand il est un peu agacé? Écoute, Julien, moi j'ai l'impression comme toi que ce combat-là, il le prend au sérieux. Valdez qui nous dit Team Music, mais hypé de toute façon par ce combat et par ce qui en découlera, c'est sûr que ça va beaucoup impacter la catégorie des lourds et rabattre les cartes sans mauvais jeu de mots. Je suis assez d'accord avec lui. Hein. L'après Fury Usyk, selon ce qui va se passer, peut faire bouger la catégorie des lourds. Surtout que les Saoudiens ont beaucoup investi dans cette catégorie-là notamment. Et ils ont donné des combats en jeu. Et c'est pour ça qu'il faudrait faire un petit bilan des combats qui ont été faits par les Saoudiens. Et de voir un petit peu ce que ça a fait bouger dans les classements. Donc, à voir, ça peut être très intéressant pour la suite. Donc, quel que soit le vainqueur, la boxe sortira gagnante. Ça, ça sera peut-être le sujet de la vidéo de demain quand je présenterai le combat. Moi, c'est là où je suis le plus flou. Sur est-ce que ça va vraiment servir la boxe, ce combat, parce que je m'attends pas à un très beau combat. Alors, Bilou qui nous dit, il prend le combat au sérieux, ça promet. Donc voyez, là, pour le moment, vous êtes plutôt d'accord avec le fait que oui, Tyson Fury prend ce combat-là au sérieux. Jean-Joseph qui rajoute, ça sent mauvais pour Usyk. Fury va jouer son allonge et sa mobilité. C'est vrai que voir un Fury comme ça en forme, hein, donc là c'est moi qui me donne mon opinion après le message de Jean, voir Fury en forme comme ça, ben ça promet un peu sur ses intentions de très certainement vouloir jouer de son jeu de jambes et de sa vitesse. Voilà, en sachant que face à lui, il a un boxeur qui excelle là-dedans. Attention quand même à pas tomber dans le traquenard dans lequel est tombé Anthony Joshua. Anthony Joshua a voulu aller sur le terrain du SIC. Et pour moi, c'était une erreur. Chose qu'il n'a pas faite contre Ngannou, où il a été dans le dur immédiatement. Voyez, il a été prudent, mais quand il attaquait, c'était pour faire mal. Contre Usyk, il a été prudent, mais il a trop voulu jouer à la technique, ce qui était une erreur pour moi. Alors attention à ce que Fury ne tombe pas dans ce piège-là. S'il le fait, ça veut dire que Usyk a une capacité à t'emmener pendant le combat, dans le combat que lui veut. Ça aussi, c'est des choses qu'on développera un petit peu sur quels sont les avantages de chacun de gagner ce combat. Et très clairement, c'est l'un des gros points forts de Usyk, qui arrive toujours à avoir une super maîtrise technique et tactique de ses combats, malgré tous les différents adversaires qu'il a pu avoir face à lui. Je pense que vous vous rendez pas compte. Alors ça, c'est la guerre, la paix qui nous dit. La guerre et la paix, d'accord. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point il va manger Usyk. Le Gypsy, avec un physique comme ça, c'est imprenable. Fin de carrière pour Usyk, qui d'ailleurs n'a rien fait pour vendre le combat. Alors, il y a clairement un parti pris hein, dans ce commentaire-là. C'est quelqu'un qui est pro Usyk. Mais on peut voir que cette personne, si tu m'écoutes, hein, t'es rassuré par le physique de Fury. Donc ça arrive à te convaincre un petit peu de la capacité à Fury à être nettement supérieur à Usyk. Ça me fait penser à un message que j'ai reçu en privé sur Instagram. Quelqu'un qui me dit « JC, tu peux screener mon message, tu vas voir, ça fait des années que je le dis, Fury, il va régler Usyk. » Bon, tu vois. Et en fait, je reprends quand il dit « ça fait des années que je le dis ». Je lui dis « oui, il y a des années, Fury largement favori contre Usyk. » Parce qu'il y a des années, et je vais y revenir, hein, sur il y a quelques années, Fury, ce que c'était. Quand tu prends Fury 2020 contre Deontay Wilder, deuxième combat, on n'aurait pas donné cher de la peau de qui que ce soit, en fait. Hein, que ce soit Anthony Joshua, que ce soit Andy Ruiz, que ce soit Alexander Usyk, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut voir ce qui s'est passé entre. Et le Tyson Fury de 2020, qui se présente sur le ring à 115 kilos, après on a contre Francis Ngannou un Fury qui se présente à 125 kilos avec 10 kilos de plus, et c'est pas du muscle les gars. Donc le problème il est là, c'est que aujourd'hui tu peux pas me dire oui ça fait des années que je le dis, mais en fait aujourd'hui il faut que tes arguments ils aient changé, parce que l'évolution de Tyson Fury elle va dans le mauvais sens. S'il avait une évolution à la Daniel Dubois, moi depuis sa défaite contre Joyce, je trouve qu'il y a une progression chez lui. C'est pas un boxeur qui s'est transformé, c'est pas ce que je te dis, mais il y a quand même une progression. Je vois une évolution, mais une progression dans le bon sens. Tyson Fury, je suis navré de vous le dire, pour moi c'est une évolution à l'inverse. Et contrairement à un Canelo qui arrive malgré tout à performer, tu vois, avec ce qu'il lui reste de son prime, je trouve que Tyson Fury ça rame un petit peu. C'est mon opinion, tu vois, entre la différence entre les deux bonhommes. Entre un qui a un acharné de travail qui est Canelo, malgré qu'il est bien sûr qu'il est sur le déclin Canelo, mais c'est tellement un acharné de travail et ce qu'il est en capacité de faire sur le ring, c'est exceptionnel que même les petits jeunes rookies, il les fait passer pour des mioches. Tyson Fury, c'est plus laborieux quand même. Je trouve ça plus laborieux. Et franchement, le combat contre Ngannou, après, tout le monde, après avoir vu ce combat-là, on peut que constater les dégâts. Hein. Et c'est pas un Canelo qui aurait fait une perf comme ça. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc voilà, j'ai un peu de mal avec ces supporters exacerbés, exacerbants de Tyson Fury qui se reposent sur des arguments d'il y a 4 ans. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on peut être inquiet pour Fury. Fury en mode Buhan. Buhan, tu veux dire la fusion. Alors, je pense que c'est la fusion entre Boubou et Gohan. Alors, je vous rappelle que moi, j'avais donné des surnoms DBZ aux champions poids lourds. Donc, je rappelle souvent aux gens qui veulent donner des nouveaux surnoms à des nouveaux combattants poids lourds, c'est qu'il faut qu'ils soient champions du monde. Il faut qu'ils aient détenu une ceinture. Donc, Tyson Fury, c'est Boubou. Pourquoi c'est Boubou ? D'où à son physique. C'est surtout à physique hein, quand je dis ça. Il est un côté un peu chewing-gum. Voilà, un petit peu chewing-gum. Et il a fait des transformations. Tu vois, on voit nettement des différences entre gros Boubou, Boubou. Bon, c'est toujours un petit peu un personnage un peu chewing-gum, tu vois. Mais il y a des différences de physique. C'est pour ça que je trouve que ça lui colle bien, Boubou. Et donc là, bah, toi, Ralphons, tu nous dis que voilà, là, il est en mode Buhan, donc ça serait la meilleure version de Boubou. Hein. Et ben, alors, est-ce que c'est sa meilleure version ? Ah, j'attends un petit peu pour vous répondre, je vais vous lire encore un peu. Donc là, Benoît qui dit « Allez Usyk pour rentrer dans la légende ». Youssouf, « J'ai jamais vu un poids lourd aussi nul de ma vie ». Bon, alors voilà, à la base je me dis « Ouais, est-ce que je vais le lire ce commentaire ?» Je le lis. Voilà, écoutez, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de répondre à ça ? S'il a jamais vu un poids lourd aussi nul de sa vie, bah ça veut dire qu'il a affronté qui, Tyson Fury ? Parce que, logiquement, tous les mecs qu'il a battus sont les poids lourds les plus nuls qu'il a vus de sa vie. Bref, tu vois, ça a pas trop de sens ce qu'il nous dit ce garçon-là. moi, je suis très impressionné par Tyson Fury, hein, je vous le dis. Hein, et pourtant, je le répète, hein, j'appréciais pas Tyson Fury. Hein, je l'apprécie pas en tant que boxeur, je l'apprécie pas en tant que bonhomme. Non, vraiment, je m'en suis jamais caché. Hein, je retournerai jamais ma veste, mais ce boxeur-là m'impressionne. Et je l'ai toujours redit, hein, ce qu'il a fait à Wilder en 2020, je crois que l'année 2020, ce combat-là, je l'ai revu entre 10 et 15 fois, tellement je le trouvais impressionnant, Tyson Fury. Et pourtant, il tabasse mon gars sûr, mon Deontay Wilder. Donc moi, j'ai aucun mal avec ça, hein, c'est pas quelque chose qui me... Comme je le dis souvent, hein, les champions, l'argent, il va dans leur compte en banque, pas dans celui de votre daronne ou de votre daron. Hein. Donc moi, franchement, qui gagne, qui perde... ça va pas changer mon quotidien. Ça me fait vivre des émotions, je kiffe, mais avant tout, j'aime la boxe. Voilà, c'est eux, ils boxent pour eux. Voilà, pour eux et pour leur famille, pas pour moi. Bref. Donc, Bass qui nous dit « Je suis pas hyper connaisseur et je trouve ça pas ouf. » Donc là, il parle du physique. « L'échelle pour juger la shape est complètement cassée pour ce mec, mais c'est vrai qu'il a l'air moins flasque. » Alors là, je crois que la réponse, elle était intéressante. Donc voilà, Ducker 3, il lui dit « Il n'a jamais eu un aussi bon physique, pour le dire simplement. » Alors, je suis d'accord avec Ducker, mais je ne suis pas d'accord en même temps. D'abord, on va rester sur le message de Bass. « L'échelle pour juger la shape est complètement cassée avec ce mec. » Exactement. L'échelle est cassée parce que si tu regardes ce bonhomme-là, j'ai perdu le fil. Si tu regardes ce bonhomme comme ça, tu vas chez n'importe quel gomuscu, tu lui envoies la photo, il connaît pas Tyson Fury, hein, il sait pas d'où il sort, il va dire génétique de merde. Voilà, il va dire génétique, c'est quoi déjà leur truc ? Bref, je connais pas les différents morphotypes dans lesquels ils classent les gens et tout. Il va dire génétique de merde. Tu vois Tyson Fury devant toi, tu dis oh, déjà je suis pas face au même gabarit. Tu vois Tyson Fury faire 12 rounds sur la pointe des pieds, à bouger de partout et ne jamais sembler fatigué, excusez-moi, mais c'est une génétique golden. Qui est né avec des capacités physiques comme ça ? De bouger 125 kilos, parce que contre contre Francis Ngannou, il fait un combat éclaté, mais le dernier round est sur la pointe des pieds et il danse. Tu vois, boum boum, il bouge, il fait rien, tu vois, il boxe pas. Mais ce que je veux dire, c'est que physiquement, tu le sens pas du tout affecté. Tu te dis qu'il peut faire encore 10 rounds comme as. Pam, bam, bam, sur la pointe des pieds, chotis, etc. Et c'est un mec qui fait 125 kilos, les gars. On n'en voit pas beaucoup des mecs bouger comme ça à 125 kilos. Donc, c'est vrai que c'est... Lui, pour le juger, c'est très compliqué. Ça dit, en fait, sur quoi... De quoi tu parles ? En fait, c'est ça le truc. Est-ce qu'il est beau physiquement à voir ? Ben non, il est pas beau physiquement à voir. Est-ce qu'il est performant physiquement avec cette taille, cette allonge, ses jambes et ce poids, bah oui, il est exceptionnel. Le mec, il est précis, il est jamais maladroit dans ce qu'il fait. Non, c'est impressionnant. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de juger ce mec-là. C'est vrai qu'il a l'air moins flasque. Alors là, je suis d'accord avec la dernière partie. Moins flasque, non, il a perdu du gras, il faut le dire tel quel, et il a gagné du muscle. Voilà, c'est au-delà de moins flasque. Il faut reconnaître que il est moins gras et plus musclé. Et alors, est-ce que c'est le meilleur, jamais eu un aussi bon physique? Non, je vous invite vraiment à aller voir Tyson Fury dans la première partie de sa carrière, hein, et quand il arrive à son championnat du monde contre Oleksandr Usyk, c'est un autre Tyson Fury, et d'ailleurs, c'est un Tyson Fury qui est à peu près à un peu, il est à 110, je crois. Voilà, il est bien en dessous. Là, si on regarde le poids de Tyson Fury, moi j'ai pris de Otto Wallin à Francis Ngannou. Et donc t'es de 115 à 125 kilos. Voilà, c'est ça l'échelle. Donc voilà, sur les années où on peut avoir un repère, parce que ce qui s'est passé avant, c'est une autre époque. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je suis d'accord et pas d'accord avec le commentaire qui lui répond, parce qu'en réalité, on peut plus parler du physique de Fury post-Klitschko, c'est-à-dire la première partie de sa carrière, parce que c'est une autre époque, c'est un autre Tyson Fury. Et donc là, il faut parler de cette nouvelle partie de carrière, et même de cette troisième partie, où je dirais, à partir du moment où il devient champion du monde contre Deontay Wilder. Parce que là, pour moi, entre le premier combat et le deuxième, déjà, Tyson Fury, c'est plus le même bonhomme. Et d'ailleurs, contre Deontay Wilder, le troisième combat, il arrive quasiment au même poids que contre Francis Ngannou. Et déjà, à l'époque, il y a quelque chose que je disais haut et fort, mais on ne voulait pas m'écouter parce que comme il a gagné par KO, je disais, pour moi, ce Fury-là n'est pas un Fury qui a fait une très bonne prépa. Et je le ressentais dans le combat, en fait. Dans le combat, sur ses réactions, voilà, il était moins. Tu sais, c'était moins fluide, c'était moins vif, c'était moins explosif. Voilà, et il a quand même gagné. Mais il faut reconnaître que la presta qu'il fait en 2020 et celle qu'il fait en 2021, pour moi, on n'est pas avec le même, on n'a pas le même boxeur là sur le ring, très clairement. Bref, et surtout, il y a 10 kilos de prix entre les deux. C'est énorme, les gars, c'est énorme. Donc voilà, donc là c'était les commentaires un peu les plus intéressants sur lesquels rebondir. Donc Alain, il nous dit, j'aime bien ce mec. Robin, il nous dit, le gars prétend avoir fait 16 semaines de camp avant son combat contre Ngannou, ça promet pour la semaine prochaine, en tout cas. Très clairement, les 16 semaines, c'est marrant que ça ressorte encore. Pour moi, c'était du mytho, mais ça pue le mytho à plein nez. Ça m'étonne toujours les gens qui prennent premier degré les phrases des combattants, surtout quand ils sont en train de vendre leur combat. Attention, je dis pas qu'ils mentent tout le temps. Mais Ngannou, que je vois se présenter à la conférence de presse pour... Fury, que je vois se présenter à la conférence de presse pour Ngannou, moi, je vous rappelle que direct, je fais une vidéo... Je le traite de gros porc dans le titre. Les gens, ils me sont tombés dessus parce que, en fait, c'était un raccourci, c'était facile. Mais si tu regardes, à chaque fois que j'ai fait une analyse de Fury, j'ai toujours pris en compte le fait qu'il ait une génétique qui n'est pas belle à voir. Mais c'est pas ça que je considère. C'est que là, vraiment, c'était un gros porc. Et le mec, il dit, non, mais j'ai fait 16 semaines. Ah, oh, bah d'accord, c'est bon, il a fait 16 semaines. Bon, bah en fait, c'est un effet d'optique, c'est pas du gras qu'on voit, pardon. En fait, c'est du muscle. C'est un effet d'optique parce qu'il a dit que ça fait 16 semaines. Je me suis plus entraîné pour Ngannou que pour Wilder. Mais c'est pas vrai, les gars. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Bref, donc voilà. Bon, à mon avis, Robin, je suis persuadé que c'est de l'ironie et qui veut dire que là, voilà, on a un gars qui va être préparé. Donc, encore une fois, je pense que Robin, donc j'essaie de passer sur le mode second degré qu'il nous a apporté avec ce commentaire. Robin rejoint ceux qui pensent que oui, il est sérieux pour ce combat-là. Et donc, moi, je me mets dans ce lot-là. Alors j'aime bien ce commentaire de Rick qui dit, on remercie Ngannou de l'avoir réveillé. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? T'as rien compris toi. Bah non, moi je suis d'accord. Kentucky qui lui dit t'as rien compris. Moi je suis d'accord. Je pense que le combat contre Ngannou, même si je sais, j'ai eu plusieurs discussions avec des gars, voilà, des proches avec qui on parle boxe et des gens qui ont beaucoup de doutes sur ce combat-là. Je suis navré. Les yeux ne trompent pas. Les yeux ne trompent pas. La gueule de Fury quand il va au tapis, c'est la gueule d'un mec qui se dit. J'étais pas venu pour ça. J'étais pas venu pour prendre cette sauce-là. Le Fury qui finit le dernier round, c'est un mec, tu te dis, mais c'était quoi sa volonté dans ce combat-là? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Vraiment. Et le Fury qui regarde Joshua éteindre Ngannou au deuxième round, force Ngannou pour ce qu'il vit en ce moment, voilà, j'en profite parce que je l'ai beaucoup cité dans cette vidéo. Je rappelle qu'il a perdu un enfant et je trouve ça terrible, terrible pour lui. J'avais préparé une vidéo sur lui qui sortira. J'arrête pas de la repousser. Je pense qu'elle sortira la semaine prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Laisser 2 semaines, entre un peu plus de 2 semaines, vous pensez que c'est correct avant de sortir ma vidéo? Voilà, j'ai changé aussi la miniature. J'ai mis une leçon de résilience et j'ai gardé le titre. Ngannou s'exprime après sa défaite contre Joshua. Voilà, c'est vraiment pas un sujet sur la vie privée d'Ngannou. C'est sur vraiment, je parle de boxe. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'ai laissé 2 semaines. Dites-moi si c'est correct pour sortir la vidéo. Je serai vraiment à l'écoute. Donc du coup, moi je suis d'accord. Quand tu vois Fury, quand il voit Joshua l'éteindre, la tête qu'il fait. Et là, c'est pas de l'acting, les gars. C'est pas de l'acting. Parce que s'il avait dû jouer, il aurait joué une autre émotion. Il est, et vraiment, ça lui a mis une tarte. Et moi je dirais merci à Ngannou et Joshua de l'avoir réveillé. C'est les deux qui l'ont réveillé. Parce que moi je suis presque sûr que sans Ngannou, sans son combat contre Ngannou, sans le combat de Joshua contre Ngannou, il aurait peut-être pris un petit peu de haut Usyk. Voilà, je pense. Et je crois que tout ça, ça fait qu'il y a un contexte qui se dit « Non mais là, je peux pas déconner avec ce combat-là. » Voilà, donc je suis d'accord avec Eric et je pense que Kentucky, c'est toi qui n'as pas compris. Et que non, il a Ngannou a bien réveillé Fury, même si j'aurais préféré qu'on ne passe pas par ça. Alors, il y a Free Palestine qui dit « Salut l'intelligence artificielle ». Alors, attends, qu'est-ce qu'on lui a répondu ? Photoshop, point d'interrogation. Donc, je ne peux pas lire ton... Ah si, allez, je lis ton pseudo. Ton pseudo, c'est NTM6100. Donc, c'est bon, on s'en fout. Bref, alors, j'avoue que j'aurais pu émettre des doutes. Comme je vous le dis, je pense pas que c'est l'intelligence artificielle. Je vous dis, il joue un petit peu de la congestion, il rentre le ventre, il se met dans une position qui est à son avantage. Fury, il a besoin de ça. Il a besoin de ça, t'es d'envoyer une petite photo. Alors, je sais pas. Souvent, j'ai dit qu'il était complexé par le physique. Aujourd'hui, je me dis, je peux pas juger ça comme ça. Tu vois, sur des photos, sur de la com, sur une manière d'être, sur des traits d'humeur. Je peux pas juger que c'est un mec complexé par son physique. Mais il est vrai que moi j'ai des signaux qui me font penser que il a besoin d'avoir de l'autodérision, en tout cas de nous faire croire que c'est de l'autodérision par rapport à son physique et d'en jouer. Et autant contre Ngannou, quand il montre qu'il est gras et tout, c'est un peu ce qu'il faisait contre Fury quand il disait bah voilà, t'as perdu contre ce mec là. Alors contre Klitschko, pardon, je mélange tous mes pinceaux. Contre Klitschko au deuxième, la conférence de presse du deuxième combat qui n'a jamais eu lieu. En fait, Fury, il a repris beaucoup de poids. Et en fait, il se moque de lui, il enlève son t-shirt, il regarde, je suis qu'un grassouillet et tout. Alors qu'il n'était pas dans cet état physique quand il l'a affronté. Même s'il a toujours un petit peu cette bouée autour du bide. Hein. Ça, c'est un truc que malheureusement, il pourra pas retirer. Sauf s'il retire l'alcool de sa vie, mais je vous rappelle que c'est un anglais et donc ça fait partie de leur tradition, quoi. C'est de l'humour, les gars, ça va. Bref, donc moi je pense pas que c'est trafiqué, et surtout que je vous ai mis 2 photos de partenaires d'entraînement qui ont mis sur leur réseau. Et donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il assume ce physique là et donc c'est le physique qu'il a actuellement. Alors, Pochaz qui nous dit « Bon, déjà, on peut décocher le manque de motivation de Gypsy King. » Alors voilà, ben écoute, Pochaz, encore une fois, tu rejoins l'équipe de ceux qui pensent qu'il est motivé, il est sérieux. Il a peut-être la meilleure shape qu'il a jamais eue, mais d'accord. Je dis peut-être parce qu'une photo peut être trompeuse, même si la photo est réaliste, il est vraiment au meilleur physiquement. Donc NTM 601, c'est encore lui qui répond. Donc toi, t'es NTM 6100, t'es plutôt sceptique. Hein. On te sent pas sûr de l'état de forme de Tyson Fury. Mais voilà, bon, moi j'ai déjà répondu, je ne vais pas revenir dessus. Chatune qui nous dit waouh, il est bien là. Voilà, encore une fois. Donc, dans l'ensemble, hein, vous êtes. Voilà, David qui nous dit putain, il m'a l'air bien déter. Hey Clay qui nous dit Team Fury pour ce combat. Donc voilà, bon, dans l'ensemble, je vous sens rassuré. Il y a quand même assez peu de gens sceptiques par rapport à l'état de forme dans lequel va se présenter Tyson Fury, donc sur le sérieux de sa préparation. Est-ce que cette photo, elle vous rassure aussi sur la blessure de Tyson Fury ? Est-ce que la blessure... D'ailleurs, sur la photo, là, on ne voit pas du tout de blessure. C'est un peu bizarre, ça. parce que c'était quand même il n'y a pas si longtemps. Et ah si 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 si, c'est plus vers la vers l'œil. Je regardais vers le sourcil moi. Si si si, on la voit. Pardon. Oulala, 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 j'allais partir dans une théorie complotiste qui allait m'échapper. Oulala, du calme. Et là on va me dire oui mais c'est peut-être du maquillage. c'est vrai. Peut-être qu'il y a les maquilleurs de The Walking Dead qui ont accompagné Tyson Fury sur son camp d'entraînement. C'est possible. Et d'ailleurs ce sont les maquilleurs de 300 qui ont fait les abdos du haut de Tyson Fury. Tout à l'heure je me moquais de l'acting de Tyson Fury. Je pense que Tyson Fury pourrait jouer des films parce que quand il fait les vidéos promotions, moi, il me fait beaucoup rire. Je le trouve excellent. Donc, mais par contre, quand il est au bord du ring, il ne sait plus jouer la comédie. Bref. Je pars dans mes conneries et je perds le fil de ce que je voulais dire. Ouais, je me suis perdu. Je me suis vraiment perdu. Punaise, je voulais dire quoi ? Oui, alors, la blessure. Non, plus sérieusement, la blessure. Est-ce que vous pensez que, du coup, ça vous rassure par rapport à cette blessure ? Est-ce que c'est vraiment une blessure pendant le camp ? Et justement, bah, c'est pas ce qui s'est donné, parce que voilà, il y avait de l'engagement, et bah forcément, dans ces cas-là, un peu comme Beterbiev, hein, Beterbiev, je pense que personne n'oserait dire que c'est une esquive de Beterbiev. Enfin, si quelqu'un vient me dire ça, j'ai envie de dire, mon garçon, mais tu débarques de quel... T'es né de la dernière pluie, mais toi, c'est même pas une pluie, t'es né c'est des grêlons, toi, ta naissance. T'es né des grêlons. Ta daronne, elle a pris les grêlons, elle a pris la grêle. Elle a accouché sur le parking de l'hôpital. Je suis désolé, mon garçon, mais là, il y a un problème. Donc, est-ce qu'on pourrait pas se dire que justement, cette blessure de Tyson Fury, bah, c'est parce que vraiment, il était très impliqué dans son camp d'entraînement et que malheureusement, ça lui est arrivé et que lui, le premier, il a été déçu par ça. Maintenant, je pense quand même que cette blessure a été plutôt à son avantage à lui et pas à l'avantage de Usyk. Plus le combat arrivait vite après Ngannou et après Joshua Ngannou, c'était à l'avantage de Usyk. Plus ça retarde, plus c'est à son désavantage. Ça, c'est mon avis. Pour Usyk, alors, vu qu'on parle un peu de physique, je vais vous parler un peu de Usyk parce que j'aimerais bien aussi attendre vos avis. Alors là, on arrive clairement à la fin du podcast, donc je me demande bien qui sera encore là. Mais pour ceux qui sont restés jusqu'ici, j'ai une petite interrogation pour vous. Usyk, il a très clairement, donc il est passé des, je vous rappelle, hein, il vient des lourds légers, donc moins de 90, il a fait une montée plutôt tranquille, tu vois, il fait son premier combat, donc il fait son dernier combat, donc une défense, sa première défense de titre, et c'est la première défense de titre de l'histoire de toutes les ceintures dans la catégorie des cruiserweight, donc les lourds légers, contre Tony Bellew en Angleterre, en 2018, fin 2018, il prend un an pour faire son passage chez les lourds, il prend pas trop de poids, tu vois, donc il monte tranquille. Il prend à chaque fois un petit peu plus de poids, tu vois. En 2020, donc un an après, il monte encore un petit peu en poids. Et puis, il se stabilise à 100 kilos. Donc, vous voyez, il a en 3 ans, il a pris 10 kilos. 10 kilos propres. Tu vois, tu sens que c'est la... Il a sensiblement le même physique qu'il avait quand il combattait chez les lourds légers, en moins tracé, bien évidemment, ce qui est normal. Mais il a gardé sensiblement le même physique. Et donc, il a mis 3 ans pour se stabiliser à 100 kilos. Et aujourd'hui, on voit que chaque combat, il l'a fait à 100 kilos. Il était à 101. Il était un peu plus lourd au premier combat contre Joshua. Un peu moins lourd, mais ah, ça se joue à même pas 1 kilo, les gars. Donc voilà, il s'est vraiment stabilisé à 100. Dubois, il est à 100. Voilà, tu vois, c'est-à-dire, il s'est stabilisé à ce poids-là. Et donc, moi, l'interrogation que j'ai, voilà, c'est ça que j'aimerais vous poser comme question. Pour moi, il n'a pas de raison de prendre du poids pour affronter Tyson Fury. Parce que Tyson Fury est un moins gros puncher que Joshua et Dubois. Je pense que sur ce point-là, on est d'accord. C'est un combattant qui va plus miser sur son jeu de jambes, sur sa vitesse. Oui, il y a les clinches. Alors, ça serait peut-être le seul argument. Donc, les clinches et les accrochages où Tyson Fury va jouer de son poids. C'est peut-être le seul argument pour que Usyk garde un poids suffisamment lourd pour pas être trop affecté par ça. Mais je pense que Usyk a l'intelligence pour et le métier pour ne pas se laisser avoir par ça, ou en tout cas quand il se fait choper, ne pas rentrer dans un rapport de force idiot qui lui ferait perdre de l'énergie. Donc pour moi, Usyk a meilleur compte à miser sur la mobilité, la vitesse, le jeu de jambes, pas de l'explosivité, parce que Usyk n'est pas un boxeur très explosif, mais sa vitesse de bras dans les combinaisons. Donc pour moi, il n'a pas de raison de monter au-dessus de ses 100 kilos. Tu vois, soit il reste à ce poids-là, soit il descend légèrement. Voilà, moi j'aimerais votre avis là-dessus. Peut-être qu'il va arriver un petit peu plus lourd le jour de la pesée. C'est pas impossible. Attention, ça peut être aussi du bluff. tu peux arriver lourd plus lourd le jour de la pesée parce que bah, tu vas bien manger juste avant la pesée, faire un gros repas pour monter un peu plus lourd sur la balance. Tu vois, ça peut être aussi un stratagème. Voilà. Franchement, je pourrais faire des trucs comme ça. Hein. Tu mets un peu de poids dans ton calbar. Franchement, c'est des trucs que je pourrais faire, moi. Tu sais, parce que les poids lourds, ils s'en foutent. Tu peux monter avec un survêt et tout. Je mettrais un petit truc lesté autour de mon ventre. Je mets pas beaucoup, je mets 5 kilos. Mais ça va interroger les gens. Je dis, ah, tiens, il était à 100, là, il arrive à 105. C'est bizarre. Ça va faire les articles, les gens, ils vont en parler. Moi, je pourrais jouer un peu le bluff. Quand je dis moi, c'est vraiment moi. Moi, dans le clan Usyk, je pourrais faire ça. Je pourrais arriver avec une stratégie comme ça. Pour mettre un petit grain dans la tête, tu vois, pour faire parler. Voilà. Mais sincèrement, je pense qu'il a meilleur compte à rester à 100 kilos et jouer sur, en fait, ses qualités athlétiques. Parce que je pense vraiment, et ça, je développerai dans les autres sujets qui viendront, je pense vraiment que ses qualités athlétiques, c'est ça qui va poser problème à Tyson Fury. Voilà les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!